Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Simon Olivier, le cofondateur de l'agence No-Code Bienfait, qui ont le mérite d'avoir écrit un livre vert sur le no-code, sur l'impact environnemental du no-code, même pour être plus précis. Donc c'était un grand plaisir d'échanger avec lui sur ce sujet qui me touche également, qui devrait tous vous toucher d'ailleurs, et puis de parler aussi plus généralement de ce que c'est de monter une agence no-code, qu'est-ce que ça veut dire, les challenges, quelques conseils, et évidemment, comment inclure une démarche d'éco-conception dans ses réalisations. Bref, un super programme, je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Salut Simon.
Salut.
Bienvenue dans le podcast de Contournement, l'épisode 106. Voilà. Je suis très content de te recevoir. Tu es le cofondateur de l'agence Bienfait. Voilà, un nom en français, comme on disait à l'instant, ouais. Qu'on apprécie chez Contournement aussi. On va parler évidemment de cette agence, mais vous avez aussi la particularité, mais surtout le mérite d'avoir fait un livre vert sur l'impact environnemental du no-code. Un vaste sujet, pas évident à traiter. Vous le dites d'ailleurs très vite, dès le début, on n'a pas beaucoup de data et tout. Et voilà, mais j'aimerais bien du coup qu'on en parle. J'invite vraiment les gens d'ailleurs à le lire aussi, hein. Ça se lit quand même assez bien, ça fait près 90 pages je crois. Mais voilà, on va profiter.
Il y a des illustrations et tout, hein, donc les 90 pages, ça se lit quand même assez vite.
Ouais, en plus, ouais, il y a la bibliographie à la fin, etc. Donc voilà, mais bon, je vais profiter quand même que tu sois avec moi pour qu'on en parle un petit peu, qu'on déroule un petit peu les points, les grands points, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a des choses que, voilà, pour les gens qui ne le diront pas, il faut avoir des choses en tête, aussi par rapport au numérique, pas que au no-code. Donc voilà, ça c'est un sujet, c'est vrai, qui me tient pas mal à cœur. Et puis évidemment, sur le sujet de l'agence, je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Voilà, je suis toujours curieux de savoir comment, pourquoi on fait une agence no-code, etc. Écoute, c'est le programme. Ce que je te propose pour bien commencer, c'est de te présenter.
Yes, merci pour l'intro. Donc Simon, je suis un entrepreneur de 30 ans. Je suis marié, je suis père d'un petit garçon, bientôt un deuxième petit garçon. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû laisser le micro allumé, le portable allumé, parce que
ça
approche, c'est vrai. Dans une dizaine de jours.
Okay.
Et je suis donc le cofondateur avec Paul de l'agence No Code Bienfait. C'est qu'on dit agence no code, mais on se veut aussi une agence digitale de manière générale et qu'on utilise le no code. Mais, donc, voilà.
Il m'a semblé voir sur LinkedIn que votre, je crois en tout cas toi aussi, vos profils étaient un peu, vos backgrounds étaient plutôt produits.
Ouais.
Est-ce que tu veux me dire vite fait juste un petit peu, je sais pas, les études que tu as fait, ce que tu as fait avant J'aime bien savoir un petit peu. Est-ce que tu as fait du code notamment?
Non, j'ai jamais fait de code, je sais pas coder.
Okay.
Le point de départ, c'est un peu ça. Et moi, le parcours, donc j'ai fait un parcours prépa, école de commerce à Rennes. Et ensuite, je suis passé en cabinet de conseil, donc plus en tant que project manager, donc gestion de produits, de projets digitaux. J'ai fait un an dans les cabinets de conseil et j'ai pas trop accroché, donc c'est un gros cabinet de conseil. Et j'ai pas trop accroché sur le gros truc de masse un petit peu et donc ça m'a un peu saoulé. Je me sentais appartenir à aucune identité, on va dire. Et donc, je suis parti à ce moment-là à l'étranger avec ma femme. Je suis parti en humanitaire au Cameroun, une expérience humanitaire. Et au retour, donc en 2018, je me suis mis en freelance en me disant, en fait, ce que j'avais pu faire en conseil, en agence, je pourrais peut-être le faire moi-même. Donc, je me suis inscrit sur Malte en project manager, gestion de produits, de projet, pardon, encore. Et ma première mission que j'ai trouvée, c'était quelqu'un qui cherchait quelqu'un en gestion de produits, justement. Donc moi, je ne savais pas trop ce que c'était le produit. Et bref, le courant est passé. Et donc, je suis devenu product owner d'un produit digital. Et le product owner, j'ai navigué dans le produit pendant 4 ans. Product manager, donc chef de produit, on va dire, pour différentes applications, soit des sites internet, des applications mobiles. Et aussi des applications internes. Et du coup, mon dernier projet que j'ai fait, mon dernier client, c'était Conveyo. Et c'est là où j'ai rencontré donc Paul, qui est aujourd'hui le cofondateur de Bienfait. Et en fait, avant même la rencontre avec Paul, il y avait cette frustration un peu dans le produit de se dire je pense des choses, rencontre des utilisateurs, j'ai des besoins. Et puis au final, là, je vais essayer de le mettre en place. Donc j'ai parlé avec les devs, avec les UX, etc., avec les designers. On va essayer de faire en sorte de mettre en place, répondre en tout cas aux besoins. Et parfois, on mettait énormément de temps à sortir des trucs. Je me disais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pas de la faute des devs en soi. C'est juste parce qu'il y avait d'autres priorités ou parce qu'en fait, il y avait une dette technique énorme. Et du coup, on n'arrivait pas à mettre en place des choses qui étaient relativement simples. Et donc, entre cette frustration qui montait et au passage, en fait, il y avait les outils no-code qui sont arrivés un petit peu en ligne de mire. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Pourquoi moi, je ne pourrais pas essayer de faire certaines choses? Donc, j'ai commencé à mettre comme ça nos codes plus pour des projets perso. Et puis, fin 2021, je me suis dit, bah voilà, en 2022, j'arrête de faire que du produit. Maintenant, je fais du produit et j'essaie de mettre en place ces choses grâce au no-code.
C'est intéressant parce que ce mot frustration, je pense qu'il a été prononcé pas mal de fois, tu vois, dans ce podcast, surtout au début, tu vois, justement, sur qu'est-ce qui a amené les gens au no-code. Il y a un peu de grandes catégories. Il y a les gens du produit, on va dire, tout ce qui est PM et tout. On en voit beaucoup dans la communauté de no-code France. Il y a vraiment un lien assez fort avec la communauté des PM, PO, etc. Et puis aussi, sinon, les gens plus qui avaient un projet, qui ont essayé de lancer un projet sans avoir de connaissances techniques, un projet numérique, bon, évidemment, mais bon, maintenant, le numérique est tellement omniprésent que tôt ou tard, tu as toujours une app, un site web dans ce que tu veux faire et qui n'ont pas pu le faire eux-mêmes et qui ont eu cette frustration. Donc c'est assez intéressant.
Ouais, c'est vraiment notre vision nous, du no-code, c'est-à-dire ça libère quoi. Ça libère quelque chose, on veut libérer un petit peu les idées des entrepreneurs pour faire des choses. Et aussi, ça, pour nous, ça réduit en fait, le fossé technologique. Enfin, c'est vraiment notre conviction de se dire en fait, les gens en fait, ils utilisent Zap tous les jours, mais ils ne savent même pas comment ça marche derrière. Alors, je dis pas que moi, je comprends plus, hein, parce que je suis pas non plus, comme tu dis, je suis pas dev, donc je sais pas exactement les lignes de code qui ont été faites, mais rien que de pouvoir connaître un petit peu le no-code, bah, ça me permet de mieux appréhender finalement les outils que j'utilise au quotidien. Et du coup, quand j'ouvre une application, quand je prends n'importe quel site, bah, je me dis, tiens, ça a été fait comme ça, etc. Donc, en fait, le fossé, je pense, technologique se réduit. On réduit finalement des inégalités. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'aime dans le no-code aussi.
Ah, bah ouais, carrément. Non, tu vois, tu dis, tu comprends pas comment ça fonctionne derrière, mais. Je pense que tu comprends comment ça fonctionne, c'est juste que tu sais pas comment ça a été codé éventuellement.
C'est ça, exactement. Non.
Mais tu vois, moi je trouve que c'est une des grandes vertus du no-code, c'est d'aider aux gens hein, de comprendre les API par exemple, tu vois, nous sommes un peu nos chevaux de bataille, qui c'est le fondement de tout l'Internet moderne, quoi, quelque part. Le client-serveur, qui c'est le back-end, front-end, tu vois, toutes ces choses-là, tu les appréhendes,
ouais,
pareil, donc c'est hyper intéressant. Et juste le profil de ton associé, juste par curiosité, pour
pareil. On est pareil, avec juste quelques années d'écart. C'est comme ça qu'on a aussi matché un peu, entre guillemets. C'est que des fois, il y a des matchs sur les différences.
Ouais.
Là, on s'est matché sur un parcours un peu commun et les mêmes frustrations et les mêmes compétences. Donc, lui, il a fait pareil une école de commerce dans le digital. Il a travaillé en tant que product manager sur différentes boîtes. Et du coup, quand il arrive, je pense que chez Conveyo, il va aller me remplacer. Donc, lui, en CDI, moi, je partais, je finissais ma mission en tant que freelance.
Okay.
Et donc, lui, il a mis un an à partir finalement de Conveyo pour finir son projet. Il m'a officiellement rejoint donc, en janvier 2023. Donc, tu vois, ça fait 4 mois.
Okay.
On est à 100% à deux sur le projet bien fait.
Ok. Et alors, du coup, c'est quoi un petit peu la vision, j'ai envie de dire? En grands mots, mais un peu la vision de bienfait de l'agence. Pourquoi ce nom aussi?
Ce nom, en fait, pour la petite histoire, on l'avait parti. Il vient pas de moi, parce que c'était un projet de collectif de freelance qu'on avait eu il y a 4 ans, donc plutôt en 2018 quand je me suis mis en freelance avec deux amis. Et c'était bien fait avec un S à l'époque et on voulait justement travailler. On était tous dans le digital, travailler plus pour les associations, donc faire un collectif de freelance à impact un petit peu. Finalement, le projet, c'est pas fait comme ça, etc. Et du coup, au moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais faire un projet sur le no-code en agence, j'ai appelé les gars, les deux gars qui j'avais fait ça, en disant, les gars, ça vous dérange si je prends ce nom-là, parce que je le trouve vraiment bien. Et bon, on a juste enlevé le S, du coup, je crois que ça avait encore plus d'impact, c'était plus facile à s'en souvenir. Et ce que je vois derrière, moi, il y a vraiment le côté, nous, c'est en fait ce qu'on veut transmettre un peu à nos clients, de se dire, à la fin, de se dire... Ok, c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est ce côté-là qu'on a envie de traduire et c'est ça qui est derrière. Et puis il y a un peu ce côté aussi, on est des doueurs, des gens qui aiment faire les choses et du coup, si on peut bien faire les choses, c'est top. Et puis il y a la petite connotation aussi positive, ouais. Impact. Même si en soi on s'appelle bien fait, on a plutôt des couleurs vertes, on se veut pas non plus une agence no-code à impact, une agence digitale forcément à impact. Et en plus on a fait un livre vert sur le sujet, mais c'est plus, enfin c'est pas non plus dans notre ADN forte. Je sais qu'il y en a d'autres collectifs ou d'autres agences qui sont vraiment mis là-dessus et ils font ça, hein, je pense, bien mieux que nous. Mais nous, voilà, c'était important d'avoir ce côté. On essaie d'apporter des choses positives de manière générale, d'où le nom bien fait. Et pour répondre à ta question un peu sur la vision. Elle évolue pas mal, la vision, c'est des choses qu'on est en train de construire un petit peu tout le temps. Mais le point de départ, nous, c'était on est des product managers, donc on sait faire des produits et on est aussi des experts no-code. C'est-à-dire qu'on n'est pas des experts Airtable d'un outil, on est plutôt agnostique des outils. Et on va laisser cette place-là à des gens qui seront bien meilleurs que nous, en fait, à des experts Bubble, des experts Make. Nous, on va plus avoir cette connaissance un petit peu de tous les outils possibles et surtout travailler en amont, finalement, pour essayer de vraiment bien concevoir les produits, mettre les bonnes fonctionnalités au bon moment aussi. Dans le sens, quand je dis bon moment, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir, ils ont une roadmap énorme, plein de projets, plein de fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est plutôt de leur dire, attendez... Enfin, les experts aussi, outils le font en soi, j'imagine. Mais nous, on va plutôt dire, attendez, ne prenons pas tout. Sélectionnons qu'est-ce qui est important maintenant pour votre MVP, puis après dans 6 mois, puis dans 12 mois. Et c'est plus ça notre rôle de produit. Et puis après, en termes de positionnement, aujourd'hui, on évolue encore un peu. On a en fait deux grands types de missions. On a ce qu'on appelle un peu notre studio. On vient créer des MVP pour des clients, sortir un peu l'idée. Pour nous, c'est de se dire, on sort des idées de terre, quoi. Quelqu'un a une idée en tête, on essaie de la réaliser. Et puis après, le deuxième volet, c'est plus notre atelier, notre manufacture, je ne sais pas trop comment on va l'appeler encore. Mais c'est là, on va essayer on va plus travailler sur des applications métiers, sur ce que vous appelez pas mal no code ops, je pense. Ça se traduit pas mal là-dedans aussi. Donc, on travaille ce positionnement aussi, c'est quelque chose qui évolue, tu vois. Ça fait un an. Ça fait 4 mois que Paul m'a rejoint à 100%, donc on est encore très jeune et on est sur un écosystème qui évolue beaucoup, donc on doit aussi se réinventer et puis trouver là où on est le plus pertinent sur le marché.
Ok, non, écoute, c'est hyper intéressant. J'ai noté plusieurs choses avant qu'on passe un peu sur le sujet du livre vert, puis on reviendra sur l'agence, mais il y a un truc que tu as dit qui est assez intéressant, c'est que vous n'avez pas spécifiquement fait le choix, on va dire, de travailler pour des assos, des acteurs de l'ESS. Est-ce que vous le faites quand même, enfin potentiellement, est-ce que sinon, quels sont un peu les types de clients, quoi, que vous avez?
Ouais. Alors, finalement, on se brande pas, enfin, n'est pas nous non plus donc, sur ce positionnement ESS, donc on en a quelques-unes, finalement, on les accompagne là-dessus. Et d'ailleurs, ils sont, je pense par exemple à Magellan.tech, qui est une agence qui vient aider les entreprises sur la stratégie bas carbone. Et d'ailleurs, ils sont intervenus un petit peu en ligne de fond sur la ligne de verre, en discussion avec eux. Donc c'était un sujet. Donc eux, avec eux, on a fait des choses, par exemple, et du coup, on est très content de pouvoir les aider là-dessus. On a aidé la Human Tech Foundation, qui est une fondation française, bref, qui travaille sur ces sujets d'éthique, etc. Donc on a ces sujets-là et on aime bien aussi aller travailler avec eux. Ça nous apporte beaucoup. Mais on n'a pas que ces types de clients. Et pour répondre à la question, effectivement, aujourd'hui, on a 3 grands types de clients, on va dire. On a des entrepreneurs qui viennent nous voir, plus sur la partie un peu studio, ce que je disais là. Ils ont une idée, ils ne savent pas la mettre en place. Ou ils savent le faire, mais ils n'ont pas le temps. Enfin, ça dépend, voilà, y a plusieurs motivations. Mais on vient sortir l'application, le projet de terre. Donc ça, c'est à peu près 20-30% de nos clients. On a 30-40%, c'est plutôt des entreprises PME, on va dire, 10, 20, 30, 50 personnes max, où là, on va plutôt travailler sur des sujets d'automatisation, de processus, de remise à plat des processus, création de CRM, création de RP, création de finalement d'applications métiers. Et après, le dernier 20-30%, je ne sais plus où j'en suis dans mes pourcentages, mais ça va être des grands comptes qui, eux, vont plus prendre le no-code comme on a besoin de tester quelque chose de rapidement. Souvent, c'est parce que l'équipe, la DSI, n'a pas voulu mettre en place notre projet où ils nous ont dit que ça allait prendre 12 mois. Du coup, on vient voir une agence no-code en se disant peut-être qu'on va pouvoir tester rapidement. Donc, à chaque fois, c'était des gens du marketing, je crois, qui viennent nous voir en disant voilà, on veut tester ce petit processus-là. Et la dernière fois, enfin là, je pense à ça, il y a un projet Airtable qui devait être un test de 3 mois, finalement ça fait un an, ça tourne bien, c'est déployé dans le monde entier, il y a 300 boutiques qui utilisent des formulaires qu'on a mis en place, bref. Du coup, ça montre aussi que le no-code peut marcher, peut fonctionner à grande échelle. Mais voilà un peu pour répondre à tes questions sur les 3 types d'entreprises, trois types d'organisations finalement qu'on adresse aujourd'hui. Quoi.
Ok. Non, c'est intéressant parce que tu vois, j'en reparle aussi parce que c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois avec Alexandre, par exemple, le cofondateur de La Bastide, donc qui accompagne uniquement eux, c'est vraiment une volonté d'accompagner que les structures à impact. Et tu vois, et je trouve que je comprends la volonté, et en plus, c'est un truc après personnel, tu vois, c'est un truc, tu vois, je trouve ça cool de se dire je travaille que pour les gens pour qui je travaille, quoi. Mais par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu dommage. C'est, je pense que techniquement, quelque part, tu vois, tu passes à côté des fois de certains projets qui te permettraient d'apprendre. Alors, je dis pas d'aller travailler pour des vendeurs d'armes et tout, tu vois, mais tu vois, des fois, tu as des projets, tu les fais pas forcément pour le. le porteur de projet quelque part, mais parce que le projet t'intéresse en soi, peut-être techniquement, tu vois. C'est pareil, il faut pas faire que des projets comme ça, parce que bon, c'est, il faut, tu vois, un peu dans la combinaison. Des fois, tu peux faire des trucs aussi juste pour l'argent. Enfin, je veux dire, c'est, moi, je peux pas faire que ça, je bien pense, sûr, ouais. Mais des fois, une fois tendance, dire tiens, ce projet est très bien payé, bon, il nous emballe ouais. pas, mais et l'argent, tu peux le réutiliser ailleurs, quoi.
Ouais. Avec le, sur ce dernier point, à risque, nous, on avait la seule mission, ça s'est mal passé, c'est une mission qui était très très bien payée.
Ouais.
Et je pense qu'on a été un peu trop aveugle. Du coup, tu vois, sur l'argent, moi, on n'en a vu que le côté un peu argent. Et finalement, ça ne s'est pas très bien passé derrière. Parce que ça nous a un peu, je pense, aveuglé sur d'autres points, un peu des red flags, des
ouais.
petits drapeaux de se dire attention, ce client-là. Il y avait peut-être des signaux qui nous faisaient dire que ça allait être compliqué sur différents points. Et du coup, ouais, il faut faire attention parfois aussi à ce côté-là.
Non, t'as raison, c'est
à ne pas se faire aveugler par, l'appât du gain, entre guillemets. Donc ouais, et après oui, c'est par rapport à ce que tu viens de dire sur le côté très enfin des missions différentes, nous c'est aussi ça en fait notre volonté de se dire on veut pas faire que du Bubble, que du Airtable, parce qu'on trouve aussi que dans les outils no code il y a des choses à aller chercher, on va s'enrichir en fait d'un projet à un autre, même d'un outil à un autre, finalement on va pouvoir progresser et avoir des bonnes astuces potentiellement, et c'est ça qui est intéressant finalement, enfin nous qu'on aime bien en tout cas sur la multiplicité des projets, des secteurs. Même si au bout d'un moment là on se rend compte qu'on fait des choses très très diverses, tu vois, sur les typologies de personnes, sur les typologies d'entreprises, les secteurs, les outils, les types de projets, ça commence à faire des choses très très différentes, et à ça en fait il y a deux risques. Il y a le fait de pas pouvoir c'est pas forcément un modèle que tu peux vraiment développer parce que tu peux pas répliquer certaines choses, etc. Donc si tu veux construire une agence rentable qui tourne, qui recrute des gens, évidemment ça peut être un problème. Puis le deuxième problème, c'est potentiellement ton positionnement. Les gens, ils viennent te voir, ils savent plus trop pourquoi ils viennent te voir, et donc finalement au bout d'un moment ils arrêtent même d'aller te voir parce qu'ils savent plus trop ce que tu fais et où tu es le meilleur pour adresser un problème. Donc là c'est pour ça qu'en ce moment on se pose beaucoup la question du positionnement. Quel positionnement on doit prendre, quel secteur, est-ce que c'est un positionnement sur le secteur ou potentiellement est-ce que c'est un secteur sur les types de besoins de problèmes qu'on veut résoudre, ou est-ce que c'est un positionnement sur les structures qu'on veut adresser, les entrepreneurs, les TPE ou les grands groupes. Voilà, la question aujourd'hui, j'ai pas la réponse.
Ouais. Non mais c'est hyper intéressant.
On est en plein là-dedans. Ouais.
Tu vois, c'est parce que tu vois quelque part quand je dis un petit peu là sur les critères d'argent, etc. Tu vois, je pousse un peu aussi la réflexion, tu vois, parce que par exemple le fait de se concentrer que sur, enfin comme tu dis, que par exemple sur un secteur, je vois par exemple, je reprends l'exemple d'Alexandre, il connaît très bien le secteur de l'ESS, lui il y a travaillé, et ça c'est un grand avantage, je sais pas, les liaisons, pour travailler avec ce type de structure, parce que enfin moi pour avoir bossé aussi un petit peu avec des assos, etc., c'est pas toujours évident, il faut comprendre leur fonctionnement, il y a beaucoup d'inertie, il y a des prises de décision, tu vois, que quand tu viens du monde des startups tu comprends pas trop. Et donc ça, c'est sûr que c'est une grande force au-delà de juste l'envie de l'impact, etc. Ouais. Il y a aussi, faut miser sur ces qualités, quoi.
C'est ça. Et si demain moi je suis une structure ESS et je dois choisir entre Bienfait ou la Bastide, tu vois, je vais aller voir la Bastide parce que ils ont fait des centaines de, enfin, je sais pas, des dizaines de projets là-dessus. Donc il y a aussi ça, les clients. Je pense que si je mets à la place des clients, j'ai envie de voir ceux qui sont plus pertinents sur mon secteur, quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on doit. Je sais pas si on doit se positionner, mais en tout cas nous, on travaille notre positionnement actuellement. Pour voir là où on est plus pertinent sur le marché.
Hein, c'est intéressant parce que c'est une de mes dernières questions pour tout à l'heure. C'est un petit peu des conseils, tu vois, sur le fait de faire une agence, etc. Ouais. On y reviendra, mais là, quelque part, je trouve que c'est déjà un premier conseil très intéressant, tu vois, le fait de se dire, bon, au début, on peut explorer et tout, mais en fait, à un moment, il faut se positionner. Et c'est pas forcément sur le type d'activité, ça peut être sur le techno, sur le trouver ses points forts et tout, quoi.
Ouais.
Super intéressant. Bon, écoute, on va revenir un petit peu sur tout ça, mais justement, tant qu'on parle un petit peu d'impact et tout, on fait une petite transition vraiment sur le sujet du livre vert. Déjà, en fait, j'avais envie de savoir, enfin, pourquoi vous, c'est peut-être lié d'ailleurs à ce qu'on vient d'évoquer, tu vois, pourquoi vous avez décidé de faire ça, tu vois, qui l'a fait, comment, quel a été un petit peu le process derrière tout ça avant de parler vraiment du fond, quoi.
La jeunesse du projet, je pense qu'il y a trois points un peu, enfin trois éléments. Je t'en évoquais un tout petit peu tout à l'heure. On a travaillé avec des structures qui sont là-dedans, qui réfléchissent à ces sujets-là. Donc en travaillant avec eux, ça nous a donné un petit peu la puce à l'oreille, j'ai envie de dire. Et donc il y a ce premier point. Le deuxième, c'est né un peu de discussion qu'on avait entre nous. Donc, l'année dernière, il y avait Paul avec moi, mais aussi d'autres personnes, Rémi et Colombe, qui étaient en stage avec nous pour nous aider un peu à structurer les débuts de l'agence. produire du contenu, etc. Et en réunion un petit peu d'équipe, on réfléchissait à quel projet, enfin, sur si on prenait ou pas certains projets. On a vu notamment un lead où c'était des personnes qui voulaient noter les clients dans les hôtels. Parce que apparemment c'est un problème dans les hôtels, il y a des clients qui mettent le bazar, etc. Et du coup, pour faire en sorte que les hôtels se parlent entre eux, et une notation. Donc nous on note les hôtels, mais les hôtels les hôtels. Mm-hmm. Et donc il y avait Colomb ou Rémi nous avait posé la question en disant Paul, Simon, vous voulez vraiment travailler pour un truc comme ça qui note les gens, ça fait un peu Black Mirror, enfin il y a un truc un peu. Et du coup on a commencé à réfléchir un peu à l'éthique derrière, de se dire est-ce qu'on prend tout type de projet, etc. Donc, il y avait un peu donc deuxième point un peu de se dire on réfléchit à l'impact de nos projets, finalement l'impact de nos missions quoi. Et donc il y avait ces petites choses, et puis en fait le troisième qui est peut-être le plus important finalement je pense, ça c'est un peu venu de chacun personnellement de se dire on a tous cette conscience écologique, de se dire on fait des efforts un petit peu, on a des actions qu'on prend je veux dire dans notre vie personnelle, et en fait si dans ma vie professionnelle je fous tout en l'air entre guillemets en faisant un peu n'importe quoi, où est la cohérence quoi. Et c'est vraiment ce sujet de cohérence, c'est pour ça qu'on d'ailleurs on en parle dans l'introduction, de se dire pour moi en tout cas c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, de se dire je cherche une forme de cohérence dans tous les aspects de ma vie, je mélange même plus trop, je sépare plus trop je veux dire vie pro et perso, enfin tout est lié, et donc j'ai besoin d'avoir cette cohérence, et du coup forcément il fallait apporter une forme de cohérence dans la vie professionnelle. Donc c'est né de là un peu de ces différentes réflexions, et à un moment on se dit mais du coup nos codes c'est quoi l'impact, c'est quoi les conséquences, comment ça se positionne, bref on a commencé à se poser ces questions. Et donc je crois que c'est Rémi qui a écrit un premier article là-dessus en disant il a commencé à faire des recherches un petit peu, et puis finalement il a fait des recherches, il a rien trouvé presque, et au très peu de choses on s'est dit mais en fait il y a un peu un truc qui manque là-dessus, il y a peu de littérature, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, et pour être totalement transparent c'est beaucoup Rémi Parizeau qui a écrit le livre vert, donc nous on a encadré on va dire tout ça, et on a structuré un petit peu, mais c'est beaucoup lui qui a écrit, et donc c'est beaucoup lui qui a l'initiative, on lui a donné du coup le temps, les ressources, etc. pour pouvoir produire tout ça, et c'est donc lui qui a commencé à faire des recherches, etc. pour en savoir plus sur est-ce que finalement moins de code voulait dire moins de carbone, nos codes, nos carbones, c'était le titre du livre vert.
Non, c'est intéressant parce que, à ma connaissance, c'est la première fois, en tout cas, c'est un sujet qui a déjà été abordé, d'ailleurs, c'est mentionné dans le livre vert, il y a eu un webinar où Erwan, mon associé, avait participé de Social Déclic sur le sujet, où j'avoue, j'avais pas voulu participer parce que je trouvais que c'était justement pour ces questions de données, et j'avais un peu peur que, du coup, on dise rien de concret là-dedans, et que, tu vois, apparemment, c'était quand même intéressant ce webinaire, et de toute façon, quand il y a rien à dire, c'est quand même bien déjà de mettre les choses. Je sais qu'ils avaient abordé la question justement du matériel, de l'impact des dispositifs qu'on utilise, etc. Enfin, on va revenir un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'était un truc qui me frustrait, donc j'étais content de me dire que, vous avez quelqu'un, tu vois, vous avez pris cette initiative de creuser et d'aller vérifier aussi quelque part, que effectivement il n'y avait pas beaucoup d'infos, mais il faut le vérifier aussi ça, tu vois.
Et voir ce temps-là.
Et le peu qu'il y a, on le met à un endroit, tu vois, c'est ça que j'ai apprécié dans la démarche. Et donc c'est cool d'avoir fait ça. Et je sais pas où je voulais aller avec ce point, mais c'était juste pour dire ça. Qu'est-ce que tu retiens, tu vois, à l'issue de ça? Déjà, peut-être même avant même, juste par curiosité, quelle est la réception que vous avez eue sur ça?
Globalement, très, très. En fait, c'était assez surprenant parce qu'on est très positif. Enfin, c'était très positif. Hein. Les gens dans la communauté, en tout cas, l'ont très bien accueilli. Je ne sais plus combien de fois ça a été téléchargé ou reçu, entre 200, 500, enfin. 3 ou 500 fois, je pense, ont été téléchargés. Après, je sais pas combien de fois ça a été lu. Beaucoup de gens m'ont dit un peu comme toi, d'ailleurs, à la base. Je l'ai pas encore lu, j'aimerais bien le lire, etc. Donc, c'est pas... Et puis, de toute façon, tu peux pas trop accueillir ça de manière négative, en vrai, je pense. Enfin, c'est un peu facile, entre guillemets, tu vois. Tout le monde l'a plutôt bien accueilli. Et par contre, on a peu à beaucoup de retours, je trouve. Enfin, par rapport, en fait, à l'investissement, etc., on s'attendait à avoir beaucoup plus d'échanges. Moi, j'ai réécrit, d'ailleurs, c'est comme ça qu'est née la conversation, je réécrivais à chacune personne qui l'avait téléchargé, de se dire, qu'est-ce que tu en as pensé, ce que tu as eu des retours. Et j'ai eu très, très peu de retours, tu vois. Et on était pas déçus, mais Mais aussi un peu déçu à te dire finalement, il n'y a pas un truc, ça n'a pas accroché, on s'attendait à avoir plus de discussions, plus d'échanges, et qu'il y ait un peu une prise aussi de que d'autres personnes prennent un peu le relais. Parce qu'en vrai, c'est une des points de départ aussi, une des conclusions. Est-ce que je t'ai plusieurs fois dit, on n'est pas les plus pertinents là-dessus, on voulait poser ça, nous c'était important pour nous. On voulait faire ce travail, mais on veut que ça continue aussi. Et du coup, il n'y a eu pas beaucoup de retours là-dessus
en fait, c'est...
par la communauté. Mais c'est peut-être lié en fait aussi, à, juste pour finir, au contenu. C'est-à-dire qu'on pose des choses et en fait, on n'est pas, c'est pas clivant, c'est pas, il y a très peu qui sont de sujets de choses, qui sont sujets à réaction finalement. Donc je comprends aussi que finalement, il n'y a peut-être pas eu grand-chose à redire en disant, bah, ok, vous avez posé ça là, c'est cool, voyons ce qu'on peut faire ensuite. Quoi.
Ouais, ouais. Bah non, mais alors, pour te partager un truc, donc on a écrit aussi un livre sur le no-code.
Ouais.
On a eu très peu de retours dessus aussi, hein, tu vois. À part que les gens, ils nous ont dit ouais, bravo, c'est bien,
ouais,
c'est cool.
Ouais.
Mais j'ose espérer. Enfin, il y a des gens qui nous ont dit on l'a lu en entier et tout. Mais on n'a jamais eu vraiment de retour. Et de nous, on s'attendait, on a fait vachement gaffe, mais on s'attendait quand même que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui nous dise ah bah non, là, la page 53, vous dites ça, mais en fait, non, c'est faux. Et peut-être même que vraiment factuellement, on soit planté.
Ouais.
Ou alors au moins que les gens ne soient pas d'accord. Mais peut-être qu'effectivement, on n'a pas vraiment de choses trop clivantes. Bah, ouais, mais...
Moi aussi, je me suis dit, forcément, quelqu'un va nous tomber dessus et nous dire, oh là, vous dites n'importe quoi. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas forcément tout bien pensé, tout bien fait. Et comme tu dis, on est sûr qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas très justes. Mais on n'a pas eu ces retours-là. Quoi.
Mais je pense que, vous le dites assez justement, vers la fin, je crois, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est vous avez mis une base, tu vois, quelque part, et justement avec cette envie un peu de que ça, on amorce la discussion.
Mmh.
Et je pense qu'il va y avoir de l'inertie, mais ça contribue, tu vois, parce que moi, je sais que, bah, déjà, là, on en parle.
Bien sûr.
J'espère que aussi, c'est la diffusion de cet épisode, tu vois, contribuera à ça. Moi, j'ai eu cette discussion aussi avec Baudouin, par exemple, qui anime les tables rondes de la communauté No Code France, qui est un super endroit, tu vois, où avoir ce type de discussion. Et je sais qu'il prévoit de discuter au moins d'éco-conception, déjà. On va revenir, c'est un point quand même fondamental. Et peut-être la question de l'impact, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va être long.
Bien sûr.
Parce que c'est comme beaucoup de sujets, comme le RGPD, comme le... Enfin, tu vois, c'est des trucs, en fait, les gens, ils s'en foutent, quoi. Quelque part, je veux dire, disons-le franchement, malheureusement... Enfin, ils s'en foutent, je sais pas comment dire. Tu vois, la prise de conscience, je trouvais très très lente.
Ouais, c'est pas la priorité. Ouais.
C'est, ouais, voilà, tu vois. Mais, voilà, petit à petit, il y a un truc où ça. Et donc, pour moi, la prochaine étape, et je pense que c'est aussi pour vous, c'est maintenant, il faut interpeller, en fait, les gens. Tu vois, et je trouve que c'est ça un peu que fait le livre aussi, c'est se dire, bon, on n'a pas beaucoup de données, voilà le contexte. Allons interpeller les gens de chez Bubble, les gens chez Webflow, tu vois, pour qu'eux, ils nous donnent aussi des données. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont les clés, quand même, d'une grande partie de l'équation,
clairement.
Quoi.
Ouais, clairement.
Et je pense que ça peut le faire, tu vois. En tout cas, en France, on a la chance d'avoir un truc un peu soudé, où voilà, vous faites quelque chose, là, on en parle, ça va partir sur le Slack, tu vois.
Clairement, ouais.
Et
c'est sûr, et tu vois, on a en discussion aussi pour en parler peut-être au prochain No-Code Summit, ça pourrait être un des sujets, tu vois, qui est une table ronde sur le sujet. Et si c'est le cas, bah, ça veut dire que. Et ce que j'avais partagé en disant ce que tu viens de dire, il faut que les éditeurs soient présents. Parce que je sais que les éditeurs qui font. Enfin, tu vois, je pense surtout à XAR en France, ils regardent ça avec grande attention. Et pour moi, c'est clairement. Je pense qu'ils sont, je sais pas combien de fois, plus légitimes que moi pour en parler. Je pense parce qu'ils font. Ils font beaucoup. Enfin, je sais qu'ils ont, pour en avoir parlé avec eux, ils n'ont pas fait certaines fonctionnalités parce qu'elles étaient trop gourmandes en énergie.
Ouais.
Et en fait, d'arriver à ce point, à prendre des décisions qui vont impacter ton business, je crois que c'était les trucs qui watch, je sais pas comment, qui écoutent, plutôt que je saurais pas trop comment le traduire techniquement, mais ils se sont dit non, fais pas ça parce que ça va, c'est trop court, ça consomme énormément par rapport à l'impact. Et alors que c'était une feature qui était ultra demandée par les utilisateurs, ils se sont dit bah non, là, on la fait pas. Et se prendre ce genre de décision en tant qu'éditeur, je trouve ça assez fort. Et en même temps, c'est dans leur ADN, ils l'annoncent d'emblée, et donc je trouve ça top.
Ouais, non, c'est clair, bah, j'espère qu'ils apporteront leur pire à la discussion, mais c'est vrai que pour en avoir aussi parlé avec Benoît Marie une fois, c'est à ma connaissance les seuls, mais après j'ai pas vraiment posé cette question à d'autres, mais qui sont conscients, qui font des choix comme tu le dis, qui mesurent en fait, puisqu'il y a un truc, c'est de mesurer. Je suis à peu près sûr, je vais pas donner de nom, mais bon, que la plupart des éditeurs juste ne mesurent pas en fait. C'est-à-dire que si on va, on leur demande quel est l'impact, par exemple, est-ce que tu vois, ou même est-ce qu'ils ont choisi spécifiquement, alors ça ils pourraient répondre facilement, est-ce qu'ils ont choisi spécifiquement par exemple un data center vert ou pas, enfin bon, ça c'est, s'ils l'ont pas fait, quel est l'impact, tu vois, la consommation de leur serveur, etc. Je pense que juste ils l'ont pas mesuré, quoi.
Ouais, clairement. Ouais.
Donc,
Et pourtant, c'est là où, c'est d'ailleurs une des conclusions de se dire que le no-code peut avoir un impact, c'est de se dire qu'en fait, on a tellement mutualisé ces services. En fait, si demain Webflow, par exemple, qui est très mal noté quand tu fais tous les sites qui sont basés sur Webflow sont très mal notés d'un point de vue impact parce que finalement, je crois que les serveurs sont pas du tout green, tu vois. Et du coup, si demain, par exemple, Webflow, je change juste ça, en fait, ça va avoir un impact énorme. Parce qu'en fait, il y a tellement de sites qui tournent sur Webflow aujourd'hui. Si demain, ils ont juste à changer, c'est pas si simple que ça, mais ouais. Si demain, ils font ce changement-là, c'est là où en fait, il y a un gros impact. Le fait d'avoir mutualisé tous ces services-là, c'est là où on peut se dire que demain, si on arrive un peu à titiller les éditeurs là-dessus, si ça, vraiment dépend, ça devient vraiment un sujet pour eux, je pense qu'on peut avoir un impact. Ouais.
Carrément. Bah écoute, on est arrivé un peu sur la conclusion, mais du coup, j'aimerais bien si... Non, mais c'est, y a pas besoin, de toute façon, il n'y a pas d'ordre, forcément, et puis les gens pourront lire le livre vert vraiment dans l'ordre. Mais vous commencez par parler du contexte, on va dire, du numérique, en général de l'empreinte carbone, donc du numérique. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus
Ouais. C'est un peu nos points de départ pour se dire, finalement, on s'adresse à ce marché-là, mais c'est quoi globalement dans cette empreinte globale comment on situe finalement nos codes? Donc déjà, il faut donc le chiffre à retenir, c'est effectivement 4%. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% dans le monde, 2,5% on dit en France, même si on n'est pas vraiment sûr du chiffre, parce qu'en fait, quand tu utilises des serveurs Amazon et que c'est vraiment considéré comme une empreinte française, c'est pas très clair sur ce point de vue. Mais bref, retenons les 4%,
c'est le côté mondial.
Exactement. C'est aussi ça, Internet qui est mondialisé. Donc, dans ces 4%, on a essayé de se dire, OK, dans le 4% du numérique, comment ça se traduit? Et finalement, si on devait placer nos codes dans ces 4%, où est-ce qu'on pourrait le placer, quoi? Donc, sur ces 4%, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait 50% à peu près qui étaient liés aux terminaux. Donc, les terminaux, c'est effectivement nos téléphones, nos ordinateurs, et aussi les serveurs, etc. Enfin, tout ce qui est matériau, ouais. En fait, finalement, toute l'infrastructure, enfin, le matériel, quoi. Et pourquoi ça prend autant? Parce que finalement, c'est des matériaux qui sont rares, qu'on va aller chercher à extraire, enfin, tout ce qui est tout ce qui compose finalement nos téléphones,
cobalt,
etc.
Exactement. Le silicium.
Tout ça, aller chercher, ça coûte énormément, ça consomme énormément finalement. Et finalement, un des plus gros impacts, il est là. Et aussi sur le transport, etc., sur la fabrication finalement.
Souvent loin. Pour les extraire de terre, il faut beaucoup d'énergie. Bon, on parle même pas de l'impact environnemental souvent.
Et humain aussi qu'il y a derrière.
L'exploitation. Souvent, il se trouve, c'est souvent dans des pays pauvres en plus. Mmh. Enfin, en tout cas, des pays du tiers-monde. Ou des pays en développement, on dit, pardon. Je ne sais plus quel est le bon mot. Je vais pas dire le... Mais, et ensuite, après, il faut le ramener, quoi. C'est-à-dire le cobalt ou je sais pas quoi qui vient du Chili. Fin,
et ça part après, quasiment à 100% en Asie. Ouais. Et puis après, ça revient effectivement chez nous. Ça fait parfois des passages, enfin bref, je sais pas combien de fois un téléphone fait le tour du monde, mais je pense au moins deux fois, quoi.
Ouais.
Un peu comme nos habits, mais ça fait plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver chez nous. Et donc ouais, finalement le gros impact il va être ici, quoi. Donc bon, ceci étant dit, qu'est-ce que nous on peut faire effectivement? Après c'est plus ça. Là on a abordé plus des questions presque personnelles finalement, quel est mon usage finalement.
Ouais, mais si on sur le fil, on arrive je trouve quand même relativement vite au no-code quelque part, enfin je vais faire des petits raccourcis, mais si on prend les téléphones, c'est ce qui est le plus ouais. Donc les téléphones on les change régulièrement, ça c'est le premier problème, on les change trop souvent. Et on les change principalement à cause du marketing, mais on peut aussi les changer parce que les applications deviennent trop grandes, les applications ou les sites web. Et en fait, si le truc qui a permis de faire les applications permet de faire des applications, par exemple, plus légères, qui nécessitent moins de performance, on aide à ne pas avoir au moins ce truc de se dire « Ah ouais, il me faut un téléphone plus puissant parce que, bon, je sais pas quoi, il rame,
ouais.
quoi. »
Ouais, clairement. Ouais, en vrai, avec l'intelligence artificielle, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que je sais qu'Apple prévoit déjà de faire tourner des IA sur les téléphones et ils vont encore nous exploser avec des trucs beaucoup trop gourmands, mais oui, non, c'est vrai que si t'as des applications qui sont plus centrées sur des besoins peut-être plus petits et moins gourmands, effectivement, on pourrait se dire qu'on va moins changer de téléphone. Et même chose finalement sur ton ordinateur ou finalement ce genre de choses. Donc c'est là où il y a un premier impact, mais en soi, entre code no code, finalement là c'est à peu près la même chose, quoi. Et après sur les deux autres aspects, donc 50% c'est les terminaux, il y a 25% à peu près pour simplifier, plus sur tout ce qui est bande passante finalement, donc plus internet finalement. On se rend compte que quand tu vas aller prendre, et parfois moi ça me rend fou de me dire, je fais un j'envoie un mail à quelqu'un qui est juste à côté de moi et puis me dire en fait juste essayer d'imaginer le chemin du mail et de la donnée qui va passer sur un serveur je sais pas où aux États-Unis qui revient et tout. Et finalement tout ce côté internet mondial et tous ces réseaux, ça a forcément un impact. Il y a plus de 400 000 câbles sous-marins dans tous les sens qui relient les différents continents entre eux, et ça a forcément un impact. Et là, ce qu'on peut se dire, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour limiter finalement certains appels ou certains flux finalement de données qui vont consommer de la bande passante. Et donc, le plus on arrive à réduire la bande passante, le moins on va nécessiter de construire des nouveaux.
Ouais, on va moins solliciter
le réseau et puis même arrêter d'élargir le réseau parce qu'on est en train de mettre des fibres optiques dans tous les sens. Bref, augmenter beaucoup de ce réseau-là qui a forcément un impact, quoi. Et puis après, les derniers 25%, ça va être plus sur la donnée. Et les data centers, et nous notre parti pris, ça a été dit, finalement si on peut avoir un impact, ça sera peut-être sur cet aspect là peut-être un peu sur l'aspect réseau aussi, mais finalement de se dire c'est peut-être sur des aspects de données où en faisant du no-code, en faisant des applications, des produits grâce aux technologies no-code, on peut avoir un impact sur le nombre de données derrière, quoi. C'était un peu notre parti pris là-dessus. Alors, pour ça, je ne sais même pas si on n'a pas eu trop de réactions non plus là-dessus. Parce que c'est un peu un mix, en fait, effectivement, entre, je pense, la bande passante, puis le flux de données, et les serveurs, l'usage des serveurs, finalement, qui est derrière. Et du coup, on s'est plus dit, voilà, si on doit situer le no-code, donc 4% dans le numérique, il y a 1% sur lequel le no-code peut avoir un impact. Finalement, si on se dit que déjà, si on arrive à tous, autour du no-code, à travailler sur ce 1%, 1%, ça paraît ridicule, mais à l'échelle mondiale, ça peut avoir un impact.
C'est ça. Après, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre, et puis c'est toujours un peu le même sujet qui revient quand on parle de ça, quoi. Mais c'est que globalement, enfin, je vais le dire parce que c'est vrai et parce que je le pense, c'est que si tu prends pas l'avion et que tu manges pas de viande, t'as un impact largement plus grand, on va dire personnel, hein, mais ouais. Bon, ça se généralise, que en effaçant ses emails et en partie là. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, en fait.
C'est ça.
C'est ça où je pense qu'on est d'accord. Et ça veut pas dire qu'il faut pas en parler aussi pour, ça. Enfin, et encore une fois, là, je dis des choses que vous dites vraiment très justement dans le livre, un peu ce côté prise de conscience, un peu. Ouais. On en parle, on amène la discussion. Et puis, on peut aller interpeller des gens. On peut aller interpeller des collectivités. On peut aller interpeller l'État, entre guillemets. Enfin, parce qu'après, il y a un moment aussi, il faut des lois, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est bien, mais bon, c'est peut-être qu'il faut contraindre les hébergeurs à certaines choses. Enfin, là, je commence à donner des exemples concrets, mais c'est ce côté-là. On peut pas aller interpeller nos élus sans savoir de quoi il s'agit, quoi.
Exactement. C'était un peu là, oui, effectivement, cette première base qu'on voulait poser avec ce livre vert. Et en tout cas, cette première partie qui était de dire, OK, c'est quoi les grands chiffres un petit peu? Et on parle de combien finalement quand on veut s'attaquer à ce sujet? Oui, 1% c'est peu par rapport au transport ou par rapport à l'alimentation, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on peut acter. Et puis de toute façon, en fait, c'est mon quotidien, quoi. Donc je travaille pas dans le transport, je travaille pas dans l'agroalimentaire. Je suis plutôt consommateur sur cet aspect-là. Donc qu'est-ce que moi je suis en train de, quand je travaille sur le no-code, je suis acteur là-dessus. Donc qu'est-ce que je peux faire de positif, on va dire, dans mon secteur, quoi.
Ah non, moi je trouve ça pertinent et je trouve ça intéressant d'en parler. Alors, c'est un sujet complexe, on ne peut pas tout aborder. Y a un truc que je veux rajouter quand même par rapport à ce que tu dis, qui est important quand même, c'est que dans la question des données, que ce soit le stockage ou le transport, etc., c'est quand même, la vidéo fait quand même une très très grosse partie.
Ouais, pardon.
Mais c'est un bon exemple parce que ça nous amène à deux sujets qui est un peu le sujet, on va dire, le sujet global de l'éco-conception, ouais. On va dire, qui est un peu le dernier point, je pense, à aborder. Mais c'est les vidéos en ultra HD, c'est, je sais pas, 8 fois plus lourd, je crois que c'est ça que vous dites, que des vidéos en HD.
Ouais.
Déjà, les vidéos en HD, bon, on peut se poser des questions quand c'est regardé sur un petit téléphone et tout. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'elle est transitée en HD jusqu'à ton téléphone? Mais bon, c'est l'innovation, le progrès. Enfin, on a des terminaux hyper puissants, on a des écrans qui affichent effectivement de l'HD. Je pense pas que ça soit nécessaire, mais bon, clair, de fait. Et donc, c'est ce truc de se dire, bon, bah voilà, je vais faire exprès que ma vidéo, soit je vais pas la mettre en HD. En ultra HD, quoi. Enfin,
ouais, bien sûr.
Ou en ultra haute définition, pour dire, pour les gens qui ça parle pas. Donc ça, c'est un premier truc. Peut-être même, je vais questionner le fait de, est-ce que je vais mettre une vidéo sur ma landing page? Est-ce qu'il y a besoin d'une vidéo ou pas? Ou est-ce qu'une image, ça ferait pas le taf? Et en fait, finalement, ça, c'est la question de la conception, de l'éco-conception, c'est-à-dire se poser un peu les bonnes questions. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et je vais te laisser la parole, c'est que vous mettez le product builder, du coup, au centre de tout ça. Vous insistez pas mal sur ce truc-là, c'est un peu sur cette, quelque part, cette responsabilité.
Donc, clairement, ouais. Et en fait, tu peux prendre conscience de ça que si tu as posé des chiffres, effectivement, de se dire que la vidéo, c'est 80% finalement du trafic. Et je te dis, quand tu réalises ça, et je pense dans les 80%, je ne sais plus c'est quoi la part du porno qui est énorme aussi.
La moitié.
Et la part de Netflix qui est aussi énorme, quoi. YouTube doit être pas très bon air. Donc, oui, il y a un énorme impact là-dessus. Et finalement, c'est parce que tu sais ce genre de choses qu'effectivement, dans la façon dont tu vas concevoir tes produits, tu vas devoir, effectivement, une fois que tu sais, finalement, tu es responsable. Donc, tu ne veux pas dire, ah non, je ne savais pas que la vidéo consommait derrière, quoi. Non, tu le sais. Et c'est ça qu'on voulait dire. Maintenant, vous le savez maintenant. Donc, essayons de voir comment on peut faire en sorte que quand on conçoit un produit, on essaie de le penser de la manière plus intelligente possible, avec le moins d'impact. Alors, ceci étant dit, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui a le plus ou moins d'impact. C'est aussi un des constats qu'on a. Finalement, de dire, typiquement, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si entre un webbook ou un. Tu vois, je suis pas assez de même. Peut-être que je suis limité techniquement parce que je n'ai pas conscience de tous les appels qu'il y a derrière. Mais entre un type de webbook, un certain trigger, je ne sais pas, un watch, quelque chose, qu'est-ce qui a le plus d'impact réellement oui, ça me paraît plus intuitif si ça, que le webbook aurait moins d'impact qu'un truc qui tourne en continu. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Je ne sais pas. Donc, il y a peut-être ça aussi, il faut qu'on aille chercher du côté des éditeurs pour avoir des vraies réponses. Mais une fois qu'on a les réponses, effectivement, on a tout sur la table. Et là, c'est notre responsabilité de nous dire comment je fais en sorte que mon produit ait le moins d'impact. Et ce qu'on se rend compte d'ailleurs souvent, c'est que quand on essaie d'avoir le moins d'impact, souvent, en fait, on essaie aussi d'avoir la meilleure interface utilisateur. En fait, plus on fait des choses simples, bien pensées pour l'utilisateur, en fait, souvent, ici à moins d'impact. Typiquement, le truc de la vidéo, en fait, ça se trouve, tu peux très bien dire la même chose que tu vas dire dans une vidéo d'une minute trente, tu vas très bien le dire juste en pensant bien ton texte que tu vas mettre avec une bonne illustration. Et potentiellement, l'utilisateur n'avait pas besoin de cliquer sur la vidéo. Et pire d'ailleurs, si tu mets de la vidéo en autoplay, c'est le pire parce qu'effectivement, d'une part, d'un point de vue utilisateur, t'imposes le fait de mettre la vidéo avec du bruit, mais en plus, ça a un impact parce que finalement, ça consomme pour rien à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est vraiment cette question de se dire, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on a voulu se dire, oui, il y a une responsabilité éditeur, mais ce serait trop facile à la fin de dire, ok, les éditeurs, c'est de votre faute. Puis après, les éditeurs, ils vont renvoyer sur les data centers en disant, oui, c'est de leur faute parce qu'on n'a pas des belles offres de data center green. Donc ça nous paraissait trop facile de dire ça, et donc effectivement, on peut faire mieux, je pense, en tant que... Et je te dis ça, tu vois, je crois que sur notre site, il y a une vidéo, tu vois. Et on peut toujours faire...
On fait énormément de vidéos, c'est clair.
Quand tu fais de la formation, t'es obligé de faire mettre de la vidéo, mais après, tu peux te poser la question. Est-ce que je suis obligé de mettre dans ma formation de la vidéo HD tout le temps ou pas?
Mais tu vois, c'est un très bon point, hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc où... C'est un sujet, tu vois, par exemple, qui m'intéresse, que j'ai étudié et tout... Mais je ne l'ai pas appliqué à nous-mêmes. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'aucun des choix qu'on a fait sur notre site, dans notre truc, n'a été guidé par ça. Tu vois. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un critère. Et c'est un problème, mais c'est un truc où on se dit toujours, on verra peut-être plus tard, on est pris par le temps. Tu vois, c'est toujours un peu ce truc. C'est le même problème avec le RGPD en général, c'est le même problème avec l'accessibilité. Et donc, après, on met chacun les trucs. Et je trouve que tu fais très bien de souligner ce côté... On peut, et parce que là, en même temps que tu l'as dit, je me suis rendu compte que j'ai un peu ça, tu vois, c'est de se cacher derrière l'éditeur.
Ouais.
C'est-à-dire que je me dis, notre site est sur Webflow. Je pense globalement, pour avoir un peu réfléchi à la question, c'est que Webflow, c'est à peu près optimisé. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des bons points, tu vois, que tu as dit sur la mutualisation et tout. Et puis, en fait, je sais pas trop. Donc, c'est un peu l'autruche, tu vois. Je sais pas trop, donc voilà, on fait. Et en fait, à aucun moment dans les choix qu'on a fait, qui nous appartiennent à nous, on a mis ce critère-là, tu vois. Mais comme tu dis, maintenant que ça y est, je l'ai dans la tête, je vais regarder les choses différemment.
Et après, on a beau avoir dit ça, nous, on le fait pas forcément non plus, quoi. C'est pas parce qu'on a fait ce livre vert qu'on est tout vert derrière, quoi. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. Et après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, parfois, on est au début, on dit, non, c'est pas forcément ça, la prio. En tout cas, ça dépend des gens. Certains vont le mettre en prio, et je trouve ça très bien. Et il y a aussi parfois, c'est ça un des effets d'une no-code qui est peut-être un peu négatif, c'est qu'on veut aller vite, on va essayer de faire les choses rapidement sans trop se poser de questions. Tu vois, RGPD, on va pas forcément faire gaffe, se dire c'est bon, c'est un petit projet au début, et puis on fait pas forcément gaffe. Puis après, on se retrouve avec des applications Bubble qui ont des trous partout et on peut prendre de la donnée. Donc, ça pour dire qu'effectivement, le no-code peut aussi parfois donner cette impression, dans l'impression de vitesse du no-code, parfois on va trop vite et du coup on oublie certaines questions Et c'est important, effectivement, de se redire, bah, on a un impact aussi là-dessus, on doit être responsable.
Tu vois, il y a un petit peu le sujet de la professionnalisation. C'est d'ailleurs un sujet qui est pareil pour les devs, tu vois. Ouais. Quand je dis professionnalisation, c'est-à-dire utiliser les outils no-code de manière professionnelle. Mmh. Et je vais inclure là-dedans, tu vois, ce que tu évoques. Par exemple, si on parle du RGPD, qui est là... Enfin, tout est important, mais le RGPD aussi, c'est très important. Il y a des choses très contraignantes. Il y a la loi, justement, là-dessus. Ce qu'on n'a pas encore, malheureusement, sur des questions environnementales, carbone et tout. Mais c'est un peu c'est cette approche privacy first. Enfin, c'est donc mettre dans la conception, et c'est là où, avec votre côté produit, ça ce truc se dire tout de suite, dès que j'imagine les choses, je me pose la question de est-ce que je vais traquer cette donnée. C'est pas après avoir fait le formulaire où tu demandes 20 000 trucs à ton utilisateur que tu te dis bon, alors qu'est-ce que je vais enlever. En fait, il faudrait le faire dès le début, quoi.
Non, clairement. Et encore une fois, en fait, sur ces réflexions-là, l'information que tu vas demander que ce qui est pertinent, du coup c'est mieux pour l'utilisateur in fine, quoi. Et en fait, je pense qu'on revenait toujours à ce point-là à chaque fois. En fait, ce qui est mieux pour l'utilisateur sera toujours finalement mieux pour la donnée personnelle et aussi pour l'environnement, quoi. On se rendait compte aussi de la même chose quand tu fais le SEO, un SEO qui a un super score, finalement c'est parce que c'est pas parce que Google il aime, enfin parfois aussi c'est parce que Google aime bien, mais finalement si Google aime bien, c'est parce que ça marche bien pour l'utilisateur. Donc faut arrêter de faire tout pour Google. Si tu fais bien pour l'utilisateur, il y a Google va aimer, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. Et du coup, même si tu fais bien pour l'utilisateur, bah, tu auras un bon score SEO et tu auras aussi un impact normalement qui sera réduit si tu fais des bons choix pour l'utilisateur.
Bah ça, si j'illustre ça d'un point de vue un petit peu technique, ça peut être tu vois, c'est là où je trouve qu'il y a une différence, par exemple, notable entre WordPress et Webflow. C'est-à-dire que WordPress, si tu l'utilises de base, tu l'installes sur un serveur. À chaque fois que tu vas aller visiter le site, dans l'utilisation de base, après il y a des caches, machin, bon, mais à chaque fois que tu vas aller sur le site, enfin qu'un visiteur va venir sur ton site, tu vas exécuter tout le framework de Webflow, de WordPress. Tout le PHP va s'exécuter, etc. Donc ça a une empreinte à chaque fois. Et donc le résultat de cette exécution va s'afficher à ton utilisateur. Tu vas sur le site de Webflow. Bah, t'as tout de suite, il te donne que du HTML. C'est un site qui n'est pas dynamique, il n'est pas exécuté à la volée, il a été préparé au moment où tu fais le publish, quoi. Et il te sert que du HTML, quoi. Donc, enfin, du HTML, du CSS et des images, etc. Si t'as mis une vidéo de 20 mégas, tu pourris le bénéfice de ce truc. Mais par contre, ouais, ça c'est assez, assez intéressant. Mais après, si on commence à mettre la main là-dedans, c'est un peu sans fin. Mais. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs j'ai dit ça, je ne sais plus sur quoi j'ai rebondi, mais c'est...
Non, effectivement, sur le fait que ça soit bien pensé pour l'utilisateur. Et
oui, voilà, je voulais venir au SEO. Enfin, décidément, j'ai vraiment plus tout de suite dans les idées en ce moment. C'est que du coup, le bénéfice de ça aussi, c'est que la page s'affiche très vite.
Voilà.
Ouais. Un site WordPress de base pas optimisé, si tu as pris un hébergeur de base OVH, ton site, il peut mettre une seconde à s'afficher. C'est normal, c'est le mécanisme de fonctionnement, quoi. Webflow, ça s'affiche très vite. Et ça, c'est bien vu par Google qui te récompense, on va dire, pour le SEO ou te pénalise à l'inverse, quoi. Ouais. Et c'est bien surtout pour l'utilisateur, puisque il clique, il a tout de suite son résultat, quoi.
Ouais,
c'est pas pour faire de la pub pour Webflow, hein, parce qu'il y a des moyens d'optimiser WordPress sans problème. Mais c'est vrai que ce truc-là, le choix technologique impacte à plein de niveaux. Il y a plein de bienfaits, on va dire, au fait d'être vertueux.
Merci, quoi. Merci de l'avoir placé.
Il fallait quand même un moment.
Mais je pense, tu vois, là, par contre, si on compare nos codes versus code, tu vois, je pense que là, tu seras meilleur que moi. Mais nous, finalement, je ne sais pas coder, je me dis que Webflow fait plutôt bien les choses là-dessus. Mais si quand je vois finalement un rapport, par exemple, SEO, un audit, je vois qu'il y a plein de choses qui prennent beaucoup de temps, tu vois, à charger. Là, je n'ai pas la main, tu vois, je ne peux rien faire. Alors que si j'étais avec des devs, ils auraient pu finalement réduire tous ces temps-là, venir chercher des optimisations. Et finalement, ces optimisations, je pense qu'elles ont un impact positif, oui, pour le SEO, mais aussi environnemental, parce que si j'arrive à réduire tous mes appels, sauf si potentiellement je surcharge d'autres appels derrière, je ne sais pas trop, mais je pense que y aura peut-être des axes là-dessus. Donc peut-être simplement un code bien fait, un code a peut-être plus et va être meilleur et plus efficace là-dessus. Potentiellement.
C'est un bon point que tu soulèves, tu vois, parce que c'est vrai pour des bons devs, quoi.
Ouais.
Tu vois, et en fait, c'est ça que les gens ont tendance à, quand il y a une comparaison code, no code et tout, les gens partent toujours du principe qui est censé, je veux dire, c'est que tous les devs sont bons, quoi.
Ouais.
Mais moi, pour avoir formé des devs et pour en avoir engagé, etc., il y en a plein. Déjà, ils s'en foutent des performances et tout, ou alors juste, ils n'ont pas la connaissance technique. En fait, écrire du code performant, c'est compliqué.
D'accord.
Héberger, tu vois, avoir un hébergement performant, tout ça, c'est compliqué. C'est des métiers, en fait. C'est des métiers, il faut 5 ans de dev pour, tu vois, optimiser, etc. Ouais. Des choses, enfin... Et voilà, mais oui, théoriquement, un dev qui est bon, qui est bien formé, qui est sensible à la question, ça va être difficilement battable. Moi, mon espoir, quelque part, pour défendre un petit peu le no-code, c'est de me dire, ces devs-là, normalement, j'espère qu'ils travaillent chez les éditeurs, tu vois.
Ouais.
Mais c'est parce que ça me paraît cohérent, tu vois. Mmh. Parce que j'ai l'impression, par exemple, quand je regarde Webflow, encore bon, restez sur cet exemple, mais je me dis que voilà, ils ont probablement une équipe technique qui est bonne. Alors bon, ils ont des pannes aussi, ça arrive, etc. Mmh. Mais voilà, mais je sais pas, tu vois, encore une fois, là, ouais. On n'a pas de données, et puis on parle un petit peu comme ça aussi, suivant un petit peu des feelings, tu vois. Enfin, c'est. Mais ouais, alors du coup, il y a un point, franchement, qui est hyper important, dont vous parlez pas mal, qui est un peu la frugalité, tu vois, dans justement, dans toutes ces choses qu'on dit. Quand on n'a pas la main sur tout, il y a un truc qu'il faut vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, je le répète encore une fois, hein, c'est vraiment se dire d'essayer d'être frugal.
Ouais.
Et moi, il y a un mot que j'aime bien, que vous n'utilisez pas, mais un ancien collègue de la boîte juste avant, qui est un dev justement, qui travaille sur l'éco-conception, il appelle la sobriété fonctionnelle.
Ouais.
En fait, tu vois ce que tu disais pour XAR, par exemple, c'est ça, c'est-à-dire, en fait, on ne va pas mettre une fonction express, c'est-à-dire qu'on va rester sobre dans nos fonctions, parce que ça va avoir un impact positif, peut-être sur les utilisateurs aussi, mais au moins, en tout cas, sur les performances, sur la consommation de notre hébergeur, de notre hébergement, enfin, l'énergie, en tout cas, qui est nécessaire à faire tourner le produit, quoi.
Mmh. Je connaissais la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, mais je ne connaissais pas la sobriété fonctionnelle. Mais non, mais ça me plaît bien. Finalement, nous, on dit, une des phrases qu'on dit, finalement, c'est viser l'essentiel à chaque fois, de se poser. Et je pense que ça va dans le même sens. Mais je trouve ça. Au moment où on arrivera à ça, de se dire finalement, je ne fais pas une fonctionnalité qui, d'un point de vue business, d'un point de vue commercial, va me rapporter peut-être quelque chose, mais je ne le fais pas pour des vraies raisons d'impact. Je trouve qu'à ce moment-là, on aura vraiment atteint un palier, je pense, et globalement, tout cela aura plus d'impact. Ouais.
Sachant qu'après, il y a aussi peut-être le faire différemment, ou le faire de manière dégradée, il y a un peu... Mais de toute façon, ça va toujours dans la logique que tu as évoquée tout à l'heure, en fait, qui est du MVP. C'est-à-dire que globalement, je pense que je sais pas si c'est humain, mais tous les porteurs de projets veulent trop en mettre dans leurs produits.
Oui.
Trop par rapport à son besoin. Enfin, bon, là, de toute façon, on commence à redire un peu les mêmes choses. Mais c'est là où, tu vois, je trouve que vraiment le côté product builder a vraiment... Moi, c'est un mot avec lequel... je trouve qu'il y a plein de définitions différentes de product builder. Mais en tout cas, quand on parle de ces sujets d'éco-conception, je trouve qu'il est très adapté parce qu'il met le produit au centre du truc. Et le produit, ça peut être un système d'outillage interne. Enfin, c'est pas obligé d'être qu'un produit du marketplace. Mais on conçoit un produit. Donc, on doit avoir une appétence produit, toutes les choses que tu as évoquées, et ensuite les implémenter de manière aussi, en ayant cette même... c'est toute la chaîne, quoi.
Ouais, clairement. Clairement.
Bon, écoute, non, mais c'est...
T'as tout dit.
Rien
de plus à rajouter.
C'est vraiment... merci en tout cas pour tout ça. Tu vois, là, je trouve qu'on a fait un bon petit tour. C'est très difficile de rentrer dans la technique, mais... Voilà, on a partagé, je pense, des bons points. Donc
Mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être un livre vert technique à faire aussi, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles nous, on n'a pas forcément la connaissance ou la compétence pour le faire. Il y a peut-être des choses, tu vois, surtout dans l'automatisation, dans le monde de l'automatisation, j'aimerais bien qu'on puisse dire, finalement, tel type de... Tu vois, sur Make ou que sur Zapier, qu'on puisse clairement dire, ce module-là, il a plus ou moins d'impact, presque. Finalement, OK, est-ce que je peux me permettre d'attendre, plutôt qu'un instant, est-ce que je peux me permettre d'attendre 2 heures, 4 heures? D'ailleurs, c'est des choses que nous, on fait un peu intuitivement, de se dire avec les clients, de se dire, attendez, vous êtes sûr que votre truc, il doit tourner à minuit, et puis toutes les heures ou toutes les heures, est-ce que c'est vraiment pas utile? Donc intuitivement, on fait un peu des choix en disant, on va essayer de diviser déjà par 2, par 4, pas le faire tourner le week-end, bref, on peut imaginer plein de choses en fonction des produits. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de choses là-dessus, des données sur lesquelles on puisse s'appuyer plutôt que juste avoir des intuitions ou juste avoir des sentiments sur lesquels on pense ou pas.
C'est un bon exemple que tu donnes parce qu'en plus, par exemple, optimiser des automatisations Make, il y a un effet de bord qui est intéressant, c'est de faire des économies aussi sur ta facture. Donc toujours, on revient dans tous ces bénéfices qui a, mais ça, je pense qu'il faudrait le concours. Je pense que le next step, tu vois, et on pourra en reparler après, de voir un petit peu quel lobbying, entre guillemets, on peut faire auprès des éditeurs, tu vois, mais c'est un sujet que je sais, l'association associations de Code France intéressées de porter, peut-être même le SFPN aussi. Et voilà, et vous aussi, vous lancez un petit peu ce mouvement, en tout cas, en faisant ce truc-là. Donc, tous ensemble, on peut aller poser des questions. Il y a des éditeurs auxquels on a accès, en plus. Chez Bubble, on a un Français à la direction qui... Je ne sais pas s'il est sensible à cette question, mais en tout cas, il répond toujours aux questions.
Ils ont d'autres problèmes en ce moment. Mais...
Ouais, ils ont d'autres problèmes. Mais par contre, un truc que j'apprécie avec Emmanuel, c'est qu'il répond toujours aux questions sans embâge. Et par exemple, j'espère pas qu'il dirait que c'est pas du tout un sujet qu'ils ont abordé. Mais tu vois, il peut dire franchement où ils en sont là-dessus. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc on verra, tu vois. Mais ça me fait penser à un truc. Et après, j'arrête sur ce sujet. On revient un petit peu sur le côté agence. Mais c'est quand t'arrives, tu vois, justement par rapport à ce que je disais aux devs. Mm. En fait, moi, je me souviens, et j'ai jamais été à ce niveau-là de dev, mais en fait, tu vois, par exemple, en JavaScript, donc les fonctions, en fait, en dessous, c'est du C, quoi. C'est-à-dire qui va exécuter le truc, là. Enfin, et donc, par exemple, deux fonctions qui font des boucles, par exemple, le for each et le map, derrière, ne sont pas implémentées de la même manière et donc sont plus ou moins performantes. Mais ça, c'est des trucs, en fait, pour savoir ça, il faut être à un stade, il faut connaître, en fait. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'un développeur JavaScript de base, enfin, en standard, qui ne s'est pas intéressé à ça, et on peut pas lui en vouloir forcément. Lui, je veux dire, il va utiliser l'un ou l'autre, celui qu'il préfère. C'est pas exactement la même chose. Enfin, ça fait la même chose, mais pas forcément de la même manière. Mais il va pas avoir cette notion.
Ouais.
Et ça, c'est des trucs où quand... En fait, il faut... Bon, c'est une question de contexte. C'est-à-dire que si tu travailles, je sais pas, par exemple, chez Amazon, ça peut faire une différence, quoi. Ouais. Sur une page qui est chargée par des millions de personnes en même temps, ton bout de code, il peut faire une différence, quoi, sur la charge derrière, etc.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est là où... Nous, si on transpose ça à notre truc, bah, il faudrait, ça serait intéressant, par exemple, que chez Make, ils nous disent, si vous faites un itérateur ou, je sais pas, je dis une connerie, ou, enfin, juste vous itérez sur des bundles, c'est plus intéressant. Ou alors de faire un tableau, tu vois.
Ah, ouais.
Est-ce qu'eux, ils en sont là? Est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce que c'est pareil aussi? Peut-être que sur le niveau d'abstraction est trop haut, je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que ce serait intéressant, quoi.
Ouais, et puis après, ça me permettrait de faire des bonnes pratiques un peu par outil, c'est-à-dire.
Probablement, ouais.
Derrière, ça serait ça. Si on arrive à ça, ça serait chouette, ouais.
On verra.
Il faut aller voir les éditeurs, et je pense qu'effectivement, No Code France, et tu vois, si on en parle au No Code Summit, je pense que ça peut être des choses intéressantes aussi à adresser. Ouais. Une des réponses, c'est chez les éditeurs. Mais on n'oublie pas qu'une des réponses, c'est aussi du côté du product builder, et on a tous un peu la main là-dessus, quoi.
Carrément, carrément. Bah écoute, pour terminer, revenons un peu, j'avais quelques questions un petit peu plus justement sur votre fonctionnement et tout. Enfin voilà, moi ça m'intéresse, et je sais qu'il y a pas mal de gens dans l'écosystème no-code ou qui écoutent ce podcast qui sont en freelance, mais qui se posent la question de faire une agence. Est-ce que, tu vois, déjà la première question, c'est pourquoi vous n'êtes pas fait, par exemple, un collectif à tous les deux, quoi? Ou est-ce que pourquoi vous n'êtes pas juste deux freelance ensemble?
Au début, on voulait faire ça un peu, je crois. Mais ce qui nous anime vraiment, Paul et moi, c'est créer une histoire un peu commune. Et un truc, moi, qui m'anime beaucoup, c'est créer de l'emploi, tu vois. Si c'est pas moi qui le fais, il y en aura d'autres qui vont le faire. Et puis, je crée pas non plus... Mais me dire si demain, en fait, je crée une structure qui permet de recruter des gens derrière, créer de l'emploi, moi, à titre personnel, c'est une vraie satisfaction et un vrai milestone, un peu un truc, je me dis, c'est un objectif personnel, me dire, demain, j'étais capable de créer un emploi, tu vois. Donc, il y a ce côté-là quand même. Tous les deux, pareil avec Paul, on a ce sentiment-là, on veut pas rester seul dans notre coin, on veut vraiment construire quelque chose qui dure dans le temps, quoi. Donc, on a cette vraie volonté. Moi, j'ai été freelance pendant 4 ans, et une des frustrations d'être freelance, c'est que j'ai l'impression d'appartenir à nulle part, en fait. J'étais libre de mon temps. Enfin, on dit qu'on n'est pas toujours libre en tant que freelance, on est toujours dépendant de quelque chose, mais on est toujours dépendant d'un client, etc. Mais j'étais quand même relativement libre, tu vois, je travaillais 3-4 jours par semaine, j'ai pu m'arrêter 5 mois pour un congé de paternité, enfin, donc j'ai gagné bien ma vie, enfin, donc il y a beaucoup d'avantages, je trouvais, à être freelance. Mais malgré tout ça, malgré tous ces avantages, j'ai quand même cette frustration de me dire, bah, je construis pour des clients, mais quand t'es chez le client, t'es pas non plus chez... Enfin, tu construis un produit, puis après tu t'en vas, quoi. Donc il y avait le côté, j'ai envie de que quelque chose perdure, quoi. J'ai envie de construire une histoire qui reste dans le temps, quoi. Et donc c'était aussi ça, cette volonté de construire une agence et non un collectif, quoi. Donc recruter et créer une histoire qui dure dans le temps, quoi.
Okay.
C'est un peu les bases de l'agence.
Et justement, sur cette notion de recrutement, ce serait quoi un peu, tu vois, pour toi le profil idéal ou les profils que vous chercheriez, ou tu vois un peu l'équipe idéale, quoi?
Ouais. Bah c'est une vraie question qu'on a en ce moment. Au début, on s'était dit on voulait recruter assez vite. Donc, on a recruté 2 stagiaires assez rapidement parce qu'on voulait tout de suite passer de freelance à une agence, quoi. On voulait peut-être ressembler à une agence trop vite, peut-être un peu aussi. Mais on a vraiment été très, très, très contents d'avoir fait ce recrutement. Ça nous a mis aussi dans un, dans un état d'esprit, dans un mode équipe, etc. Ça nous a vraiment aidé à construire parce que les débuts de Bienfait, donc avec Rémi et Colombe. Et là, en janvier, donc avec l'arrivée de Paul, à vraiment 100% avec moi, on s'est posé, on s'est dit, finalement, on a besoin d'abord de se connaître un peu. Je compare ça aussi parfois un peu au couple qui attend un enfant, tu vois. C'est un peu, t'as besoin de te connaître un peu déjà en tant qu'associé, voir là où sont les meilleurs, faire en sorte qu'on s'entende bien, pour ensuite pouvoir accueillir d'autres personnes, quoi. Donc là, on est un peu dans cette phase-là, on a encore besoin de travailler à deux. Et on a fait, il y avait aussi un choix là-dessus qui était de générer de la trésorerie pour bien se payer, en fait, déjà. En fait, on avait deux options. Soit on faisait de la trésorerie pour recruter rapidement, soit on faisait de la trésorerie pour déjà bien se payer, quoi. Et on a plutôt pris cette option de bien se payer, alors qu'il y a trois mois, on avait pris la décision inverse. Mmh. Et là, on a changé d'avis parce qu'en fait, on s'est dit c'est trop important qu'on soit bien, nous, personnellement, tous les deux, serein pour nos proches, etc. C'est trop important, ça. Et si on recrute des gens et qu'en fait, nous, on n'est pas bien parce qu'on a toujours cette petite idée de « ok, je me paye moins », voire même, tu vois, il y a des mois, on a plus payé presque nos stagiaires que nous. Enfin, tu te dis, au bout d'un moment, en fait, tu rentres dans un schéma où tu te dis, tu commences à te faire un peu dénouer le cerveau. Et bien, on s'est dit, on veut être bien de cet aspect-là. Je ne parle pas des salaires mirobolants, mais juste on veut être bien d'un ce point de vue-là, serein, bien, savoir qu'on sait générer déjà de la trésorerie et bien se payer tous les deux, et ensuite recruter. Je ne réponds pas à ta question du coup sur qui on va recruter, mais et du coup, on est aussi dans cet aspect-là, avec cette réflexion-là, mais aussi cette réflexion aujourd'hui, on ne sait pas exactement, tu vois, qui on veut recruter. Est-ce que. Donc, ce qui est la tendance la plus forte, c'est qu'on veut des gens un peu comme nous, qui viennent du produit. Peut-être des gens qui viennent du design un peu plus que du produit même, parce que c'est une compétence sur laquelle on sait faire des choses, mais on n'est pas encore les meilleurs. Et souvent sur les missions, on sent que c'est un petit truc qui manque, l'étape encore donc UX, UI design, en fonction des outils no code, c'est plus ou moins utile. Mais donc c'est peut-être un profil sur lequel on irait. Mais pour l'instant, finalement, après, je pense à terme, si jamais je me projette un tout petit peu dans l'idée, si on arrive à recruter des profils un peu comme nous, relativement jeunes, avec un tout petit peu d'expérience peut-être, mais qui font du produit ou du design, après peut-être aller les gens vers plus technique. Peut-être même des devs qui pourraient nous aider sur plein de petits bouts qu'on n'arrive pas, ou des experts de certains outils pour venir finalement nous épauler pour faire les 20% de missions qu'on n'arrive pas bien à finaliser, etc. Ou finir un peu. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, de se dire qu'on voudrait des gens un peu comme nous, puis après des experts un peu en périphérie, quoi.
Ok. Non, c'est intéressant. C'est ce qui me paraît être le moyen le plus sensé. Moi, je pense que de toute façon, quand on est une agence, quelque part, on doit toujours aussi être un petit peu un collectif, c'est-à-dire savoir s'entourer de gens qu'on peut solliciter, soit parce qu'ils ont de l'expertise, soit juste pour faire un tampon sur un plus gros projet, enfin avoir un peu cette latitude.
Aujourd'hui, c'est notre fonctionnement, effectivement, c'est ça qu'on a. On a des freelances avec qui on travaille, que ce soit en UX, UI design, que ce soit sur certains aspects qu'on n'arrive pas à faire. Je sais pas, sur on n'est pas les meilleurs, par exemple, sur N8N. Bon, récemment, on allait voir des freelances là-dessus pour qu'ils nous aident sur certains projets. Et nous, ça nous va bien, en fait, se dire, puis c'est notre positionnement aussi, se dire, on n'est pas les experts outils, on est des experts produits qui faisons du no-code, et du coup, c'est très bien si on peut faire en sorte de travailler ensemble, donner des missions aussi à la communauté no-code, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment riche, et puis on apprend à chaque fois en plus, donc ça nous va bien aujourd'hui comme système aussi, mais on a cette envie quand même de recruter après, à terme, des compétences diverses, quoi.
Ok. Cool. Bon, je pense que tu trouveras dans le comité de No-Code France potentiellement
gens. Même, mais si je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui sont en freelance, je sais pas si demain ils voudront passer aussi en mode agence. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont très contents et donc ça va être un sujet aussi à un moment donné de se dire ceux qui veulent être en agence, ça sera peut-être pas les experts. Les experts voudront pas venir en agence, donc il y aura peut-être à un moment donné, je sais même pas si on trouvera finalement des grands experts pour venir dans l'agence, mais bon. On a le temps.
Ouais, c'est un sujet assez intéressant. Ça se voit aussi qu'on est au début quand même un peu de tout cet écosystème, parce que les experts sont très sollicités. Les gens qui sont les plus en vue, souvent ils préfèrent, du coup ils sont dans une très bonne position, donc ils n'ont pas forcément envie d'être recrutés. Ils gagnent très bien, peut-être en freelance ou enfin plus à la liberté.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est un peu dur, et en même temps il commence à y avoir pas mal de juniors, de jeunes qui sortent, enfin de gens jeunes au niveau des compétences. Mais du coup, comment choisir? Puis au début, quand tu fais une agence, tu peux pas avoir que des juniors, parce que tu dois les encadrer.
Et là, comme si tu viens de mettre le doigt sur quelque chose aussi, de dire comment choisir, c'est dur. Aujourd'hui, on a très peu de, à part les tester sur des outils, il y a très peu de recul, je trouve, sur comme il n'y a pas vraiment de certification sur laquelle on peut se reposer, sur des méthodologies sur lesquelles on peut se reposer, puis comme c'est jeune, enfin, en soi, bon, après, on va pas demander non plus des gens qui ont 4 ans d'expérience en automatisation, tu vois, en 6 mois déjà, tu peux faire des choses déjà énormes, mais et puis la durée, enfin, le temps de l'expérience n'est pas forcément le critère numéro 1, c'est aussi la vélocité sur laquelle tu as fait des projets potentiellement, mais c'est difficile aujourd'hui pour avoir un tout petit peu testé, tu vois, en entretien, on a eu du mal à se faire une grille claire de comment on arrive à décider sur si on prend cette personne ou pas, quoi.
Non, j'imagine. Ouais.
Bah, j'imagine que la communauté va créer. Enfin, il y a sûrement un produit qui va pas longtemps. Enfin, il y a des certifications qui commencent à sortir. Il y aura peut-être des choses qui vont sortir aussi dans ce sens-là. Donc, je pense que
il y a beaucoup de discussions sur ces sujets. Nous, on fait partie de tout ça. De toute façon, déjà, tu vois, les gens qui ont un petit diplôme contournement, ceux-là, ils sont très bons à recruter, quoi, évidemment.
Non, mais on les dirige, les gens. Quand les gens nous demandent comment se former, on dirige vers vous, effectivement.
C'est vrai,
parce qu'aujourd'hui, vous êtes là aussi depuis longtemps. Enfin, on a besoin de ça, finalement, aussi, parce que la nouveauté, parfois, peut inquiéter. Et se fait voir, il y a des gens qui sont là dans le temps, qui sont là aussi pour durer, bah, ça rassure tout le monde. Quoi.
Ouais, non, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que la prochaine étape, c'est aussi les vraies certifications, au sens vraiment formation pro, enfin, à la française et tout. Ça, on y travaille, on n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs, évidemment. Il y a des choses conjointes, même. Mais ça prend longtemps. Mais c'est vrai que bah, nous, on est contents des gens qui ont suivi nos formations, qui ont derrière pu faire leurs preuves. Mais c'est pas que grâce à nos formations. Clairement, je veux dire, nos formations, elles amènent à un certain stade. Après, c'est la pratique. Comme tu dis, tu parlais de 6 mois tout à l'heure.
Ouais.
Enfin, il faut pratiquer. Et au début, bah, les premières missions, elles peuvent être dures. Pour les gens qui sont en freelance, c'est pour ça que nous, c'est vrai que je suis hyper content quand je t'entends dire que tu veux créer de l'emploi et tout. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que. Moi, j'ai déjà été en freelance. Je trouve que c'est hyper dur d'être en freelance. Je trouve que c'est hyper dur d'être seul, c'est dur de faire le commercial, c'est dur de se faire payer, il y a plein de trucs hyper chiants. Et c'est vrai que ça me désole un peu quand j'entends des agences, tu vois, qui sont un peu plus avancées que vous, tu vois, et qui cherchent à recruter et qui n'arrivent pas, en fait.
Ouais.
Qui n'arrivent pas, tu vois, des agences bubble qui veulent recruter des bubbleurs, et les bubbleurs, ils sont un peu les rois du monde en ce moment, tu vois, bon, peut-être ça va décliner, je sais pas. Alors, mais tu vois, c'est en tout cas pendant un moment, tu vois, c'était hyper recherché, bah, les mecs préfèrent être en freelance, tu vois, ils sont payés plus. Mais tu vois, c'est des mauvais calculs, en plus, je trouve ça un peu dommage parce que les gens, ils préfèrent être payés plus en auto-entrepreneur. Tu vois, tu cotises pas, t'as pas de. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que le modèle social français est quand même un modèle intéressant. C'est quand t'es salarié, quelque part, que tu y contribues le plus et que tu en profites le plus aussi après, ou potentiellement, quoi. Soit pour la retraite, la protection sociale, etc. Bon, voilà, après, les gens qui sont très libéraux, qu'on y penseront pas forcément d'accord avec ça, mais. Il y a pas mal d'entrepreneurs aussi dans le...
Oui, bien sûr.
Mais donc moi, ça, je trouve ça cool et je trouve que ça devrait pas, on devrait pas trop mettre en avant aussi les gens qui sont freelance. Parce que surtout que ceux qui sont freelance maintenant, qui sont experts, ils ont eu de la chance aussi quelque part.
Oui, ils sont arrivés peut-être au bon moment.
Exactement. Et c'est pas... Enfin, ils ont eu de la chance, c'est parce qu'ils sont bons.
Oui, bien sûr.
Mais il y a eu un moment, si tu t'es formé à RTL il y a 3 ans, t'as plus facilement eu les chances de trouver tes premières missions, etc. que non, maintenant, même si je pense que c'est encore un moment favorable. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire émerger un marché de l'emploi, surtout sur le côté no-code ops. Sur le côté product builder, alors même si bon, on pourrait dire que les ops internes, c'est aussi product builder, bon, c'est une question de mots qui est chiant, on n'arrive pas à trouver, mais côté no-code ops, il n'y a pas de métier bien défini. Il y a y a quelques boîtes qui ont des équipes d'ops qui fonctionnent qu'en no-code, ils appellent des fois no-code engineer, des fois machin, enfin bref. Je parle tout le temps de ça parce que c'est vrai que ça m'obsède un peu parce que déjà ça me fait chier que tout soit en anglais.
Exactement. On a cherché en vrai le terme product builder en français, on n'a pas trouvé.
C'est un peu chiant. Et parce que après, pour que Pôle emploi reconnaisse toutes ces choses-là, c'est important, vrai. En fait.
Ouais, bien sûr.
Les gens, ils s'en foutent, tu vois, on est dans un écosystème qui est quand même très empreint de la culture startup. Mais en fait, si on veut regarder un peu plus loin, il faut penser à Pôle emploi, il faut penser au Codrome de Pôle emploi, enfin, tu vois, leur nomenclature.
Et nous, d'ailleurs, c'est une des réflexions de se dire même, tu vois, on réfléchit à arrêter de se brander même agence no-code, tu vois. Parce qu'en fait, agence no-code, ça te parle, etc. Bien sûr. Parle aux 10 000 personnes qui sont sur no-code France, ça parle aux gens qui nous suivent sur LinkedIn. En fait, à côté, tu vas, je viens de Maine-et-Loire, à Cholet. Si je vois les chefs d'entreprise, je dis je fais du no-code, il n'y en a pas un qui va capter ce que. Ils vont pas comprendre, quoi. Donc, est-ce que. Je ne sais pas si au bout d'un moment, ça ne va pas desservir finalement de tout mettre à l'accès sur le mot no-code, tu vois, qui est un mot aussi anglais, et tout axé sur les outils no-code. Au bout d'un moment, on réfléchit vraiment à se dire est-ce qu'on est vraiment une agence no-code et est-ce qu'on veut continuer à se brander, entre guillemets, à nous positionner sur du no-code. Parce que ça parle qu'à une minorité finalement.
Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi j'aime bien ce mot parce que je trouve qu'il est fédérateur quelque part. Mais je vois ça du point de vue du mouvement.
Bien sûr.
Tu vois, mais d'un point de vue business, il y a plein d'éditeurs d'ailleurs hein, qui s'y raccrochent un petit peu parce que ça a des avantages d'un point de vue marketing, mais qui ne l'aiment pas trop. Tu vois, par exemple, Emmanuel de Bubble, il a dit pas mal de fois, tu vois, qu'il n'aimait pas ce mot, qu'il pense, et ça, je partage son avis, je pense que c'est un mot qui va disparaître, en fait, à terme, quand la mode un peu sera passée, si tant est qu'il y a une mode. Et lui, par exemple, il aime mieux le terme programmation visuelle, tu vois, visual programming, enfin, c'est même ça qu'ils utilisent pas mal chez Bubble. Mais j'étais surpris, tu vois, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a été interviewé dans Paris Match. C'est quand même drôle, tu vois. Et il parlait que de no-code. Je crois que le mot programmation visuelle... Alors, c'est peut-être le journaliste hein, qui n'a utilisé que ça. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de le savoir. Et tu vois, et je pense que... Mais quelque part, je comprendrais que pour l'instant, il se raccroche au mot no-code pour avoir des utilisateurs. Mais en fait, la vision... Et du coup, c'est intéressant, tu la partages un peu. Et je comprends, parce que d'un point de vue agence, tes clients, ils s'en foutent en fait que tu codes ou que tu codes pas. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur délivres.
Ils ont des problèmes et ils veulent avoir une solution à leurs problèmes. Donc, que je fasse ça avec du Make ou un autre outil, peu importe quoi.
Ouais.
Aujourd'hui nous, on va pas se mentir, nos clients ils viennent nous voir pour du no-code aujourd'hui. Parce qu'on se brand agence no-code, ils viennent nous voir pour faire du RT. Enfin, on a les clients qui viennent nous voir pour du Airtable pour faire ça. Il y a les clients qui deuxième niveau, c'est je veux du no-code, je sais pas trop quoi. Et nous, mais ça, c'est de sphères là, c'est deux petits noyaux finalement.
Ouais.
Le gros noyau, c'est la troisième sphère qui dit j'ai un problème, trouve-moi une solution. Et c'est plutôt là où il y a plus de monde, il y a plus aussi de projets sur lesquels on pourrait travailler. Et donc c'est aussi pour ça qu'on réfléchit, tu vois, à sortir un peu du no-code, quitte à perdre ce noyau 1 et 2. Mais le troisième cercle est quand même le plus grand. Et c'est là où il y a le plus de PME. Et on se dit que. Enfin, tu vois, tu me posais la question aussi de l'agence. Nous, c'est vraiment aussi digitaliser les PME en France avec panache. Si on peut faire ça, ça serait aussi un truc qui me plairait bien. Quoi.
Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça revient un peu à la question du positionnement, ce que tu évoquais tout à l'heure.
Tout à fait.
Et moi, je pense que quand tu te lances, bah, c'est un peu comme les outils no-code, c'est-à-dire comme les outils qui utilisent le monocode dans leur marketing. En fait, ça te permet d'être un peu plus singulier. Sinon, si tu te lances, comment tu trouves tes premiers clients? Comment
clairement.
C'est ta raison sur ce troisième.
Une autre agence digitale, on en a encore moins positionné que l'agence no-code. Donc oui, non, t'as raison.
C'est intéressant comme réflexion. Bah, écoute, on verra où vous en êtes dans un an.
En vrai, ça évolue presque tous les trois mois. On évolue un tout petit peu. Là, tu vois, on va se positionner sur des offres un peu plus claires. On va essayer de clarifier un peu les offres. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait alors qu'il y a trois mois, c'était pas le cas. Donc, c'est un sujet qui évolue tout le temps et on le partage d'ailleurs. Enfin, dans notre newsletter, on en parle à chaque fois, de manière très transparente. C'est pas parce qu'on dit ça aujourd'hui que ça va rester longtemps ou pas. On avance petit à petit. C'est aussi ça qui est sympa dans l'entrepreneuriat.
Non, carrément. Justement, c'est un peu la dernière question, parce qu'on a quand même pas mal dépassé des une heure, mais c'est au forme, quand on a une discussion intéressante, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit.
C'est ça.
Mais justement, j'allais te demander un petit peu, c'est une question que j'aime bien poser à tout le monde et notamment aux agences, mais est-ce que vous documentez un peu, du coup, ce que vous faites? Alors, on a le livre vert, déjà, c'est une belle documentation, c'est un beau, bel effort. Tu me parlais de votre newsletter.
Oui, exactement. On a une newsletter qu'on a appelée Bien Vu. On peut trouver sur bienvu.bienfait.co. Mais dans cette newsletter, en fait, on fait deux choses. On documente, on donne nos contenus aussi qu'on produit. Quoi. Et une fois par mois, donc c'est une newsletter qui a lieu tous les 15 jours. Une fois par mois, on documente aussi notre aventure entrepreneuriale. Donc, c'est moins axé nos codes, mais on parle beaucoup de nos codes aussi. Voilà. Notre newsletter, elle ne se veut pas forcément sur l'expertise no-code, mais plus effectivement sur quelque chose d'assez orienté aussi produit. Quoi. Donc on aime bien faire un sujet thématique à chaque fois sur ce qu'on pense, certaines choses. Quoi. Donc on documente à la fois effectivement notre parcours entrepreneurial en tant qu'agence, et on documente aussi ce qu'on voit dans le monde du no-code. Donc on aime bien faire des top 3 d'outils pour génération de documents, pour automatiser ça, prise de rendez-vous. On aime bien aussi documenter ce genre d'éléments. Pour la communauté, et on va pas se cacher aussi pour le SEO, pour attirer aussi des clients en essayant de trouver finalement les problèmes auxquels les gens sont confrontés et faire en sorte qu'ils puissent nous trouver et qu'on puisse les aider là-dessus. Quoi.
Ok, bah écoute, super intéressant. Je m'abonnerai, j'avoue, je n'étais pas abonné encore. Je fais vachement attention, je ne m'abonne pas beaucoup de newsletters parce
Faut pas en avoir trop.
Je les lis systématiquement, donc j'ai un peu ce truc de nerd, tu vois. Si j'ai un mail.
Je suis pareil.
Donc j'essaie de me préserver, mais ça me tente bien, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, côté, tu vois, un peu suivre votre aventure entrepreneuriale, et puis aussi, donc, à faire les choses un peu plus de contenu sur le no-code. Écoute, super. Et où est-ce qu'on peut te suivre, toi, plus, ou te contacter éventuellement?
Sur LinkedIn, c'est là où je publie le plus. J'essaie de publier 3-4 fois par semaine. Donc Simon Olivier, Simo LVR, je crois que c'est ça mon short sur LinkedIn.
Okay. Bon, je
et sinon, bienfait.co, vous allez tout retrouver là-dessus. Et notre newsletter, et puis principalement ici, voilà. Un peu sur Twitter, mais...
Super. Et sur le Slack de NoCode France, j'espère.
Sur le Slack de NoCode France, bien sûr. Je suis pas le plus actif, parce qu'effectivement, le Slack de NoCode France est très orienté outils.
Il est devenu intense. Et comme
exactement.
Beaucoup,
c'est comme du newsletter. J'évite d'aller dans trop de canaux, parce que sinon, je suis un peu surnagé. Effectivement, c'est très... Nous, comme on n'est pas les meilleurs sur les outils, tu vois, il y a très peu de fois où je peux intervenir aussi. J'y vais plus pour poser des questions, ouais. Que pour apporter des choses à la communauté. La seule fois où j'ai apporté, c'est le livre vert quand ça me paraissait pertinent effectivement de le proposer un peu à la communauté, quoi.
Non, c'est cool. Écoute, je manquerai pas de te taguer quand je partagerai cet épisode, et puis on verra si la discussion s'en suit. Je pense qu'il y aura des réactions, j'espère.
Ouais.
Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir
pris
l'initiative encore de ce livre vert et d'avoir amorcé cette discussion. Je pense que j'espère qu'on va en entendre reparler.
J'espère aussi, ouais.
Et puis voilà, on va suivre ça.
Avec plaisir.
À bientôt.
Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je sais que les épisodes sur les agences souvent plaisent beaucoup, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont freelance ou qui ont peut-être pour projet de monter une agence, de s'associer, de faire un collectif, de faire des choses comme ça. Donc c'est hyper cool. Je suis très content que vous ayez eu l'occasion d'écouter un petit peu Simon, qui vous partage tout vraiment le process, comment ça s'est passé pour eux, l'histoire. Ça fait pas très longtemps, mais néanmoins, vous voyez, de par son profil et par les différentes choses qu'ils ont fait, c'est hyper intéressant. Et puis après, vraiment sur le côté impact numérique du no-code, vous l'avez compris, c'est un sujet hyper vaste, on a gratté juste la surface quelque part, puisque comme on l'a répété plusieurs fois, on n'a pas toutes les infos. Allez demander des informations aux éditeurs que vous utilisez, allez les pousser, c'est que comme ça qu'on pourra avoir plus d'informations et qu'on pourra faire des choix vraiment en connaissance de cause, donc c'est hyper important. C'est pas forcément ma mission de faire du lobbying, mais néanmoins c'est un sujet qui me touche, j'essaie de faire des choses, mais c'est difficile, c'est pas évident. Là je vous enregistre sur un ordinateur qui a pris beaucoup de ressources à être fait. J'ai aussi un ordinateur portable. J'essaie de pas en changer toutes les deux minutes. J'essaie d'acheter des choses chez Back Market, mais c'est quand même difficile d'être complètement vertueux. Ça fait beaucoup de dissonance cognitive, mais je me dis qu'on peut essayer de faire avancer les choses, en tout cas dans les domaines qu'on utilise, les choses qu'on utilise au quotidien. Le sujet des outils no-code, évidemment, nous touche un petit peu. On peut avoir éventuellement un petit peu de prise dessus, moins que sur comment sont conçus les ordinateurs et tout. La seule chose qu'on peut faire là-dedans, c'est juste ne pas en acheter. Enfin bref, je vous laisse, j'arrête cette diatribe écologiste, même si c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai pas mal étudié. Au plaisir d'en parler avec vous si on se croise dans un événement, no code ou autre. Mais en tout cas, cet épisode, quand même, je tenais à le faire, je tenais à lire ce livre vert, donc ça m'a pris un petit peu de temps, puisqu'il est sorti il y a quand même déjà quelques mois, mais ça, c'était important, et puis je suis content du coup d'avoir rencontré Simon grâce à ça, et que par ce biais-là, on a évoqué plein d'autres choses. Vous l'avez compris aussi, le sujet de l'éco-conception et tout, qui est un sujet connexe, mais aussi extrêmement important, qui n'est pas spécifique au no-code, mais qui peut avoir aussi ses valeurs. Donc bref, vous avez compris plein de choses très actionnables, très concrètes. Et puis, on s'en reparle très bientôt. Si tout va bien, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes sur le sujet. J'espère qu'on aura des informations, qu'on pourra questionner les éditeurs, qu'eux-mêmes vont prendre la parole aussi sur ce sujet. Et on en reparlera tous ensemble. Ça fait une longue fin. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Très franchement, je ne sais pas lequel ça va être. Je ne sais pas qui encore en sera l'invité. Je suis un peu à l'arrache en ce moment. La semaine prochaine, on sera à Barcelone. Il y aura du contenu qui sera créé là-bas. Donc probablement que ce sera un petit épisode de récap autour de cette aventure, de cette No-Code House Barcelone qui s'est transformée en No-Code Week. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter l'épisode spécial que j'avais fait sur la No-Code House à Athènes. Je suis assez fier de cet épisode que j'ai un peu travaillé. J'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu similaire à Barcelone la semaine prochaine. On verra ce qu'on arrivera à faire. Merci beaucoup et à très bientôt.